France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Mettre en musique la poésie d'Henri Michaux, voilà une tâche ardue à laquelle se sont essayés de nombreux compositeurs. Musique classique, musique électroacoustique, ce sont surtout des musiques dites intellectuelles ou de connaisseurs qui sont venus se confronter à la poésie et à la prose du poète franco-belge. Cela semble résonner avec l'œuvre elle-même, qui, bien qu'elle soit reconnue par les écrivaines et les écrivains, ainsi que par le milieu académique, est finalement assez peu lue par le grand public. Ce numéro de « De la nuit » de Gilbert-Maurice Duprez tente de résoudre ce problème en combinant des lectures extraites des recueils « Face à ce qui se dérobe » et « Poteau d'angle » à une musique plus accessible et plus populaire. Inspiré par le rock progressif, ces ambiances remplies de guitares électriques et des rythmes endiablés de la batterie donnent un souffle nouveau au texte de Michaux, dont la poésie éclatante est mise en valeur de façon tout à fait remarquable. Une émission diffusée pour la première fois le 11 mars 1976 sur France Culture.
Bonsoir. Dominique Tron.
La vastitude avait augmenté. Le cercle de hautes montagnes alentour, quoique inchangé, paraissait au bord d'un grand changement qui ne venait pas. Douloureuse, en lui, une amplification inconnue continuait, sans objet, à la recherche d'un objet. Dans une zone d'ombre à ses pieds, des centaines de tiges de sveltes graminées jaillissaient du sol. Des mouches, tout près, en quantité comme ivres, d'un vol saccadé, tournaient autour d'une étroite bande, emportées en des virages vibrants, avec des reprises comme la foudre et des bzzz, bzzz, incessant, sans jamais se poser. Il y avait là comme un mode dionysiaque d'exister. Dans le ciel, des planeurs en grands orbes silencieux bruissaient soudain sèchement en remontant le vent, puis disparaissait. Était arrivé à un endroit sombre, écarté, en présence d'une large et haute montagne. Une grande faille l'en séparait. Quelques pins étaient sur le bord du précipice. Tandis qu'il marchait en regardant la montagne d'en face, elle prit de l'importance, une importance personnelle. À un moment, ce fut comme si elle lui avait fait signe. Un certain degré d'identité venait de s'établir entre eux. Elle n'avait pourtant ni tête, ni corps, ni profil d'homme, même en très grand, en très déformé. Rien non plus qui rappelât un animal. C'était seulement une forme assez sombre. Il en émanait un appel persuasif, insistant. Le temps... Le temps s'était arrêté. La montagne et lui... Il n'y avait plus qu'eux, à faire entre eux deux, qui seuls, désormais, comptaient. Les quelques pins sur les bords de la faille ne prenaient pas parti. Elle lui enjoignait d'aller se précipiter dans le gouffre, comme si elle en avait le droit. À cause peut-être de la ressemblance, cet air sombre qu'ils avaient en commun. En vertu alors du droit d'intervention que s'arroge naturellement un proche lorsqu'il a de l'importance. N vivait cette identité, si c'en était une, plutôt qu'il ne l'observait. Il se laissait aller à l'attirance. À certains intervalles où elle était plus faible, il en ressentait surtout la familiarité. Les moments forts augmentèrent. L'invitation devint plus impérative. Le commandement, en quoi s'était presque muée la persistante insinuation, aurait dû lui paraître surprenant. Une montagne lui commandait de se jeter en bas d'une paroi. Cependant, il restait sans réplique. Pas de mots. S'il y en avait eu, c'eût été quelque chose comme « Viens, ne cherche plus, n'essaie pas de te reprendre, tu ne trouveras jamais, jamais davantage, quoi que tu fasses. » Il s'agissait du grand savoir vers lequel, pendant longtemps, il avait cru diriger sa vie. L'appel ne discontinuait plus. Haine ne songeait plus à s'y soustraire. Elle et lui, secrètement, en conformité de vue, quoiqu'il ne se souvînt pas d'avoir été tenté de se donner la mort, Certainement pas récemment. À cette heure même, il ne sentait pas ce désir. Elle, apparemment, voyait en lui ce que lui-même n'apercevait pas. Bizarre tout de même, l'entraînement qu'il subissait. Il ne l'aurait pas accepté d'un homme. D'elle, il acceptait d'emblée, sans rien objecter. Péniblement, en zigzag, il continuait sa progression en terrain malaisé. C'est une fois dans la descente qu'il hésitait. Il y avait donc une limite. Néanmoins, en s'arrêtant, ses yeux se relevant naturellement, il retrouvait devant lui la montagne fatale qui, aussitôt, revenait à la charge. Et engourdi, il reprenait la descente forcée. Avec toutefois un certain ralentissement après quelque temps, dû surtout à la lassitude. Mais dès que ses regards machinalement se reportaient sur la masse montagneuse qui lui faisait face, le message impérieux revenait, constant, égal, qu'il avait rejoint en ses profondeurs, ne lui laissant aucune échappatoire. De l'indifférence, de l'acceptation, de la fascination. Il se dégageait alors de l'influence maligne et remontait un peu afin de s'éloigner. Quand toutefois il s'arrêtait pour une courte pause, à nouveau il était happé par elle. Et il se remettait en marche en sens contraire, prêt à se jeter dans le gouffre dès que la pente serait suffisamment raide. Celui-ci tardait à se montrer. La pique devait commencer notablement plus bas. Descente de plus en plus pénible, irrégulière. Retardé malgré lui, les jambes meurtries par les petites branches épineuses et enchevêtrées, agacées, il s'irritait. Grâce à son irritation, presque sauvé, se dégageant de l'influence étrangère, il obliquait, remontait. Si toutefois il venait à faire halte et relevait la tête naturellement, ses regards, rencontrant à nouveau le versant énorme de la montagne, il cédait une fois de plus à l'injonction et redescendait. Cela devenait ridicule, les allers-retours. N'y avait-il pas là une sorte de jeu à s'abandonner, puis à se reprendre, puis de nouveau à s'abandonner? Jeu sinistre, quelque chose d'insincère, de rusé peut-être, et au moins en partie des manœuvres de sa part pour mieux, et en curieux, se rendre compte de ce qui lui arrivait. Cette demi-insincérité qu'il observait l'empêchait de se rendre compte de son état dangereux. Après des marches et des contre-marches, soudain, carrément, il remonta et pour de bon, il fuyait. Il avait failli se laisser mener trop loin.
C'est un combat sans corps qu'il faut te préparer tel que tu puisses faire front en tout cas. Combat abstrait qui, au contraire des autres, s'apprend par rêverie.
étrange et écarté, il s'accusa de lâcheté. La peur ne l'avait donc pas éclairé.
Avec tes défauts, avec tes défauts, pas de hâte, ne va pas à la légère les corriger. Qui irais-tu?
Quelque chose de persévérant, cependant, n'était pas assoupi qui préparait un autre piège. S'éloignant dans une autre direction, il contourna le sommet. Il tenait à échapper à des rencontres, à distance de tout endroit où l'on entend parler, où l'on est amené à parler, parler homme. Il en aurait été défait, désagrégé. Il n'était plus de leur bord. L'étroite piste où maintenant il marchait, d'un côté était adossée au rocher, de l'autre, le vide. Le retour ne serait pas facile, surtout à cette heure avancée. Un vent froid s'était levé, avertissement du prochain crépuscule. À mesure qu'il avançait, les roches devenaient gênantes, paralysantes. Massive et importune présence, excessivement importante, tellement hors de proportion avec la sienne, quant au volume, quant à la densité, à la dureté, à la ténacité, à la longévité, ayant, sans bouger, vécu à travers d'immensément longues périodes historiques et préhistoriques. Il sentait son existence personnelle chétive, insuffisante, bientôt indéfendable. Leur être énorme, qu'il longeait à pas menus pour lui, était malsain, redoutable. Elle s'imposait. S'imposer, c'est exclure, pas d'intrus. D'une certaine façon, elle le lui faisait sentir et qu'il n'irait pas plus loin. Par un interdit muet, elle l'arrêtait. Suis-je le seul, se demandait-il. Ou bien, y en a-t-il eu d'autres qui, passant par ici, ont été pareillement repoussés? N'importe. Il continuerait. Il n'allait pas se laisser faire. Le langage que de sa vie il n'avait entendu, le langage des grands immobiles, il l'entendait par une inexplicable conjoncture. Il pouvait écouter, il ne devait pas s'y soumettre. Autre adversaire. Le vide qu'il avait à sa gauche, gauche côté cœur, côté faible, il essayait, étant sujet au vertige, de s'en détacher l'esprit. Il avait encore à détourner son regard des rochers. Il le fallait lorsque de temps à autre était atteint en lui un certain point critique. Tout en marchant, appliqué à garder les yeux tournés vers le sol, il commençait à ressentir un indéniable penchement oblique. Il fallait y prendre garde. À nouveau, entre plusieurs dangers, il se tournait, faute de mieux, vers les roches. toujours aussi forte, aussi exorbitante, elle lui lançait, eût-on dit, un défi. Celui de rester ferme malgré l'insidieuse action penchante. Obligé dans ce cas de pivoter sur place, là précisément où il n'y a pas de place, où on est comme sur une simple ligne, où le vertige est inévitable, au ras du vide. Ses jambes se dérobaient. À elles aussi, il devait faire attention. S'arrêter. S'asseoir. Avec ses flageolantes jambes dehors. Pendantes. Dans l'abîme, chercher, évoquer des solutions, difficiles, risquées, à la limite du possible et de l'impossible, c'était s'obliger à de nauséeuses et déréglantes représentations de celles qui entraînent, qui insidieusement entraînent. Le vacillement avait augmenté, augmentait, n'était plus seulement dans les jambes, dans les pieds, dans la tête, mais sur le sol. Sur les pierres des rochers écroulés, sur la piste sinueuse. En bas, une petite mare d'eau morne, sans vie, tombeau liquide. Tandis qu'il était là, en suspens, une seconde arriva, pas très différente des précédentes, mais celle-là passée, tout capota.
Guérir, voyager pour t'appauvrir, voilà ce dont tu as besoin. Faute de soleil, sache mûrir dans la glace. Faute de soleil, sache mûrir dans la glace. Thank you. faire de la soif. La fierté. Si le peuple en est capable.
Une quinzaine de mètres plus bas, ils gisaient à présent en sang, rompus, sans mouvement, sans vue, sans savoir. Il ignorait que quelques minutes seulement auparavant, il était tombé. Un vieux solide rocher en surplomb là depuis des milliers d'années, extrêmement dur, sans faire aucun cas de lui, l'avait arrêté net sur le bord de l'abîme. Il s'était plus ou moins abandonné à la chute, à cause de cet intolérable vacillement, en effet, maintenant disparu. En ce sens, c'était un succès. Il l'ignorait. Il ne savait pas qu'il était en montagne. Il n'avait rien d'actuel pour le savoir, ni pour détecter quoi que ce soit de ce qui était à l'extérieur et très peu de l'intérieur. Enfin, premier réveil, il se sentit sourd. Souverainement sourd, devenu une paroi de surdité, comme un sens inversé de ce qui subsistait en lui, lui, mais bouché, bouché extraordinairement. Était-ce le coup d'arrêt formidable, sa dernière sensation du concret qui subsistait, se prolongeait ainsi dans un autre sens, lui, butoir devenu bouchon. Cette énorme épaisseur d'indifférencié allait-elle être le dernier et monocorde souvenir de cet être fragile, mais varié, si varié, même trop. Un peu de vie se mit à poindre. La partie de sa conscience réveillée en saisit ceci. Rares étaient les données inhabituelles, inconnues.
Tu peux être tranquille. Il reste du limpide en toi. En une seule vie, tu n'as pas pu tout souiller.
Il se trouvait en un lieu immense, pas rien, déterminé. Attaché à une très, très large croix de cuir d'une longueur démesurée. Relié à quelque chose comme un wagon. Un énorme wagon-citerne qui, grâce à un dispositif compliqué, infini, admirable, était en relation avec d'autres, et ceux-ci avec d'autres encore, et ces autres avec d'autres encore, dont il ne voyait pas la fin, tous immobiles. Le calme était parfait. pareil réseau, l'ignorait-il, était de mouvement, n'a de sens que dans le mouvement. Un temps dut s'écouler, considérable, et il sut, sans qu'on le lui eût communiqué, qu'on attendait de lui seul, une mise en route. Même s'il n'y avait eu qu'un seul wagon, et non pas une suite de wagons, et non pas seulement une suite, mais tout un réseau, et non pas seulement un réseau, mais plusieurs, mais quantité de réseaux, formant partie d'un système, et non seulement un système, mais quantité de systèmes, eux-mêmes en relation avec d'autres, plus reculés, plus complexes, même alors, l'effort demandé eût été gigantesque, insensé. Cependant, peut-être n'était-ce pas tout à fait hors de proportion avec de certaines confuses possibilités, pourvu tout de même qu'il y eût quelque part un commencement. Commencer. Et le premier wagon se mettrait en branle. Et puis tout l'appareil serait entraîné, et tout le réseau, tout le système. Si seulement pouvait se déclencher un petit mouvement, un tout petit mouvement, d'abord. Mais la dense quintessence de statique demeura. Le réseau garda son immobilité. N ignorait que c'était lui, lui seul, qui se trouvait en état insolite, gisant sur un roc, mortellement blessé. Ensuite, tout disparut. Deux wagons, il n'y en eut plus. Ni de souvenirs de wagons. Sans rien, N, cependant, ne se sentait pas privé. Une musique s'éleva. Quoique sourd, il l'entendit. Exhalaison sonore d'une pureté, d'une intensité inconnue. Venant de partout, mais de nulle part où l'on cherche des sons, de nulle part où les musiciens incroyablement trompés cherchent et continuent à chercher, elle venait de vérité, ample, elle entra en lui, lui en elle, immense, directe, somptueuse, quoique déshabillée de tout ornement, elle était là, sa patrie même, son pays. Ample, elle entra en lui, lui en elle, immense, directe, somptueuse, quoique déshabillée de tout ornement, elle était là, sa patrie même, son pays, il y était donc arrivé, majusculement modeste et sans frontières. Du temps en coulait, le temps même. Celui qui ne s'arrête pas. Elle entra en lui, lui en elle, immense, directe, somptueuse, quoique déshabillée de tout ornement. Elle était là, sa patrie même, son pays. Il y était donc arrivé, majusculement modeste et sans frontières. Du temps en coulait. Le temps même. Celui qui ne s'arrête pas. Haine en recevait pleine jouissance. Celui qui ne s'arrête pas. Haine en recevait pleine jouissance. Cependant, le temps d'horloge, sans qu'il en eût la moindre idée, passait, mécanique, réduit, mesuré. Le temps dont il lui restait si peu. Voix pourtant en émanait, voix sans une trace d'hésitation, jamais entendue, totalement sûre d'elle-même. Et que proclamait-elle ? Tu vas naître, tu vas naître. Mais alors, il n'était donc pas né. ce moment qui eût dû demeurer tel quel, N fit un mouvement, pas bien grand, excessif tout de même. Il ne fallait plus de mouvement. À présent, c'était l'erreur, ce qu'il fallait absolument éviter.
Est-ce que tu es préparé? Que fais-tu contre le foisonnement? Est-ce que tu es préparé?
Et il se retrouva dans un temps tout petit, étroit, aminci, uniquement soustractif. Le temps qui se retire. L'indéfiniment prolongé de l'espace et du temps. Attrape dehors, attrape dedans, attrape Nigo, dis, qu'est-ce que
sécheresse que tu es. Nuit sombre, au-dedans d'une pierre.
En référence, Man, Back into the Future et Moriturus dans Face à ce qui se dérobe chez Gallimard, Poteau d'angle au cahier de Lerne de Henri Michaux.
C'était un numéro de De la nuit de Gilbert-Maurice Duprez consacré à Face à ce qui se dérobe et Poteau d'angle d'Henri Michaux, diffusé pour la première fois le 11 mars 1976 sur France Culture.